Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. C'était attendu et ça s'est finalement acté, le Burkina Faso. Le Mali et le Niger ont donc quitté la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, entendent désormais construire l'avenir en retrait de la Communauté économique régionale ouest-africaine. Quelles conséquences économiques et financières? Nous en parlons au cours de cette émission. Comment faire appel à l'intelligence artificielle pour mieux découvrir les liens culturels à travers le monde et surtout en Afrique? Nous en parlons dans le Zoom Express avec une application qui se nomme Guidely. Vous en aurez davantage de détails dans quelques minutes. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Mais avant cela, prenons la direction de la Côte d'Ivoire où le gouvernement a fait le point sur sa politique économique et sur les perspectives qui se profilent à l'horizon, notamment pour les PME et le secteur privé. C'était lors de la première session 2025 de la tribune Les Rendez-vous du gouvernement. Le reportage à Abidjan avec notre correspondant sur place, Mel Berchel.
La politique économique ivoirienne repose sur une vision stratégique axée sur la croissance durable et la transformation structurelle. Depuis plusieurs années, des réformes sont engagées pour améliorer l'environnement des affaires et favoriser les investissements. La ministre de l'économie, du plan et du développement dresse un état des lieux des réformes mises en place et des défis que le gouvernement doit relever. Niale Kaba.
L'économie ivoirienne se montre résiliente. Malgré un contexte international difficile, le taux de croissance du produit du PIB, produit intérieur brut réel, s'est établi en moyenne à 8% entre 2012 et 2019, à 7% en 2020 du fait de la pandémie à COVID-19, avant de rebondir à 6,5% sur la période 2021-2024.
Si les réformes du gouvernement ont permis de stabiliser certains indicateurs, l'avenir repose sur une stratégie plus inclusive. L'accompagnement des petites et moyennes entreprises constitue un levier clé du développement économique. Niale Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement.
Il faut davantage d'innovation, de modernisation de l'appareil productif, notamment dans le secteur agricole qui est le plus gros employeur de notre pays, et également un défi. La Côte d'Ivoire a beaucoup de PME, un tissu de PME assez dense. Il est important d'améliorer la capacité managériale de ses dirigeants pour accroître donc leur migration vers de gros champions nationaux.
Berthe Kouadio, au conseil des femmes chefs d'entreprise.
Dans les grands défis, c'est prévu l'autonomisation de la femme. Et ça, nous, c'est notre combat, en fait. Nos attentes, c'est surtout le financement, le coaching, parce que nous aidons ces femmes-là à mieux se structurer pour mieux s'insérer dans l'économie du pays. Donc, nous avons besoin du soutien du ministre de l'économie.
Alors que la Côte d'Ivoire poursuit son ambition de devenir une économie émergente, les réformes devront s'adapter aux défis mondiaux et aux exigences d'un développement inclusif. Un défi que le gouvernement entend relever avec des stratégies innovantes et un engagement constant envers les acteurs économiques du pays. Mel Berchel, Abidjan, Midi 1.
Coémergence, l'invité.
Notre invité, c'est notre analyste que nous recevons chaque semaine, Idriss Lindjé. Idriss Lindjé, directeur des rédactions de Media Mania qui édite entre autres la plateforme panafricaine ECOFIN, spécialisée dans l'actualité économique et financière du continent. Bonjour à vous, Idriss Linzié, et merci d'être avec nous dans Coémergence.
Bonjour Omar Baldi.
Je le disais tout à l'heure, c'était attendu et ça s'est finalement acté. Je parle bien évidemment de la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, entendent désormais construire l'avenir en retrait de la Communauté économique régionale ouest-africaine. Avec vous, Idriss Linzié, nous allons voir quelles sont les conséquences économiques et financières de cette sortie de ces pays qu'il avait annoncé, il faut le dire, un an plus tôt. Alors, Idriss Linzié, tout d'abord, quelles devraient en être les conséquences économiques et financières pour les pays membres de la CEDEAO?
Bon, je pense que sur le court terme, on ne devrait pas ressentir un impact économique particulier, parce que la CEDEAO est restée ouverte à continuer de négocier avec, enfin pas de négocier, mais de traiter avec les peuples qui sont aujourd'hui partie des États regroupés autour de l'Alliance des États du Sahel. La CEDEAO reste consciente qu'elle est d'abord une organisation des peuples avant d'être une organisation pour les États. Donc si aujourd'hui les politiques qui sont à la tête des États de l'AES ont pris la décision souveraine de sortir de la CEDEAO, c'est une décision politique. Mais la CEDEAO qui continue d'avoir un engagement pour les peuples n'a pas choisi de rompre tout de suite le bénéfice économique que représente la communauté pour cette. Donc du coup, sur le court terme, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait de gros déséquilibres structurels de manière brusque. Les travailleurs de ces pays pourront continuer de rester dans les pays de la CEDEAO.
Alors,
ils pourront continuer de traiter.
Justement, en parlant de ça, je rappelle que la CEDEAO a réagi en disant justement que ce que vous veniez de dire, hein, les travaux, les travailleurs de ces pays, les citoyens de ces pays peuvent toujours continuer de circuler avec le passeport CEDEAO. En plus de cela, donc, il n'y a pas vraiment de restrictions économiques et financières. On se rappelle cet embargo qui avait quand même déclenché beaucoup de polémiques. Alors, cela dit, on sait que ces trois pays membres sont aussi, ces trois pays qui se retirent de la CEDEAO sont aussi membres de l'UEMOA avec le franc CFA comme monnaie commune. Est-ce qu'à ce niveau-là, on devrait s'attendre à quelque chose comme répercussion?
Non, justement, parce que effectivement, et d'ailleurs, hein, je pense que rien n'empêche que des pays soient membres de l'AES ou même finalement qu'on ait des pays membres de l'AEL, l'Association des États du littoral ouest africain, l'AELO, je veux dire. Rien n'empêche qu'on ait ces organisations. Effectivement, intelligemment, les responsables politiques de ces pays ne sont pas sortis de l'UEMOA. Ça aurait été beaucoup plus catastrophique et beaucoup plus difficile à gérer. Donc, ils vont continuer surtout de bénéficier du tarif extérieur commun de l'UEMOA. Et puis, il faut le dire, pour la plupart de ces pays, ils traitent davantage avec des pays partenaires de l'UEMOA que, par exemple, des pays comme le Ghana, le Nigeria, ou encore la Guinée-Conakry, ou même le Libéria et la Sierra Leone. Donc, c'est intelligemment qu'ils ont politiquement pris la décision de se distancer de la CEDEAO, qui finalement n'impacte pas de manière suffisante l'économie de ces pays, un peu comme c'est le cas pour l'UEMOA. Par contre, il y a des constructions qui se mettent en place, qui visent à harmoniser notamment la politique monétaire au sein de la CEDEAO. Et plus on va aller dans ces processus, si ces pays n'ont pas finalement pris des mesures adéquates, elles risquent de se retrouver à un bloc qui les privera de l'accès à tous les privilèges qui sont liés à l'appartenance à une communauté commune.
Alors, parlons à présent des perspectives économiques de ces trois États, membres donc de la Confédération des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina. Qu'est-ce qui se dégage comme réorganisation sur le plan économique pour ces trois États?
Bon, je pense qu'ils ont annoncé pas mal des mesures. Ils vont lancer des banques d'investissement, ils vont lancer un certain nombre de choses. Mais de mon humble point de vue, j'ai l'impression que derrière, il n'y a pas une maturité d'un projet économique. Hein. La plupart de ces pays, aujourd'hui, se financent encore massivement sur des économies qui sont situées en dehors de l'AES. Quand vous prenez, par exemple, les émissions des titres publics par les États, vous vous rendez compte que le Burkina Faso, aujourd'hui, est un des pays qui emprunte le plus d'argent sur le marché des titres de l'UEMOA. Alors, je comprends bien qu'on déteste désormais la CDAO et ses affiliés de la France, mais abandonnez dans le CFA, arrêtez de les demander l'argent des épargnants de la zone France CFA. Donc je crois qu'il n'y a pas eu une vraie maturité économique derrière. Je pense que malheureusement, sur le plan purement économique, les dirigeants des États de l'AES, certainement, ils ont un projet, hein, peut-être que je ne suis pas simplement informé, mais ils doivent encore davantage mûrir le projet économique parce que plus les processus vont avancer au sein de la CDAO, on le voit très bien, plus ils seront exclus. Et rappelons que c'est des pays des l'Interland, ils ont besoin de passer par d'autres pays pour accéder sur les façades maritimes. C'est vrai qu'il y a des accords de l'OMC qui demandent qu'on laisse passer les pays des l'Interland, mais ça risque de ne pas être facile. Et le drame, c'est que dans la CDAO, on a pris conscience de ça. Malheureusement, si ces pays sont plus pauvres, ça sera plus un problème qu'une solution, puisque si des pays sont économiquement pauvres, leur population a tendance à migrer là où il y a une espèce de meilleur cadre de vie. Et ça sera toujours le problème des pays voisins.
En tout
donc
cas,
c'est vraiment une chose très complexe.
Oui. En tout cas, c'est à suivre donc cette sortie des États membres de l'AES de la CDAO, à savoir donc le Burkina, le Mali et le Niger. Nous parlions de l'impact et des conséquences économiques et financières que cela donc pourrait impliqué, et là, en tout cas, selon Idriss Lingé, notre analyste, pour dans le court et le moyen terme, il n'y aurait pas grand-chose donc à craindre. Merci à vous, Idriss Lingé. Je rappelle que vous êtes le directeur des rédactions de Mediamania, qui édite entre autres la plateforme Ecofin, spécialisée dans l'actualité économique et financière du continent. Vous êtes aussi un analyste hebdomadaire dans Coémergence. Merci Idriss Lingé et à la semaine prochaine.
Merci Omar, à la semaine prochaine.
Zoom Express.
Et dans le Zoom Express, nous allons parler donc de l'intelligence artificielle, de ses applications, mais aussi de culture, parce que nous allons voir comment faire appel à l'intelligence artificielle pour mieux découvrir les liens culturels à travers le monde, mais surtout en Afrique. Nous en parlons donc dans ce Zoom Express avec une application qui se nomme Guidely. Guidely qui est donc développée par la personne que nous recevons aujourd'hui, à savoir Kenza Yahyaoui, qui est donc la responsable de Guidely. Bonjour à vous, Kenza Yahyaoui, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Et avec nous également Mustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique. Bonjour à vous, Mustapha El Bouri.
Bonjour.
Alors, c'est un plaisir de vous avoir tous les deux pour parler de cette intelligence artificielle et de cette application à l'heure où, en tout cas, on sent qu'il y a un regain d'intérêt par rapport à cet univers, notamment ChatGPT qui se fait concurrencer par d'autres applications, notamment chinoises. Alors, tout d'abord, Kenza Yahyaoui, présentez-nous l'application Guidely.
Alors, Guidely, c'est une application mobile qui va vous permettre de trouver des lieux autour de vous et d'avoir des informations sur ce lieu grâce à un assistant de voyage audio qui va vous créer une expérience complètement personnalisée pour vous, selon vos centres d'intérêt. Et en fait, l'avantage de ce format d'agent donc, qui est généré par IA, c'est que vous pouvez aussi interagir avec lui en lui posant des questions. Et c'est vous qui choisissez le type d'information que vous souhaitez. Donc, Guidely a pour ambition de recréer toute l'expérience de visite qu'on pourrait avoir avec un vrai guide touristique humain, mais avec une application mobile.
Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est voir en quoi cela peut être utile, notamment dans le continent. Qu'en est-il de la présence des sites africains dans Guidely?
Alors, aujourd'hui, Guidely propose des monuments dans le monde entier, puisqu'ils proposent pratiquement tous les mêmes monuments qui sont couverts par Google Maps. Donc, vous pouvez avoir vraiment des monuments dans tous les pays du monde entier, dont l'Afrique. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'il pouvait y avoir et vous avez des monuments au Maroc, au Sénégal, en Tanzanie et dans un grand nombre de pays.
Mmh. Est-ce que vous sentez de l'intérêt de la part des visiteurs internationaux qui visitent l'Afrique par rapport à ces sites culturels ou touristiques tout simplement en Afrique?
Alors, de ce que j'ai vu, il y a quand même un gros potentiel international en Afrique parce qu'on a aujourd'hui 74 millions de personnes internationales qui ont visité l'Afrique en 2024. Mmh. Du coup, comme l'application elle est disponible dans tous les pays en téléchargement, donc dans plus de 150 pays, les gens de l'extérieur de l'Afrique vont pouvoir, en venant en Afrique, découvrir ces sites touristiques grâce à cette application et à connaître plus sur la culture africaine.
Mmh. En tout cas, alors Moustapha El Bourri, directeur général de la plateforme Best Afrique, alors sentez-vous de l'intérêt par rapport à l'appropriation de cette intelligence artificielle dont on parle dans les projets d'investissement, les porteurs de projets ou tout simplement les initiatives et stratégies touristiques en Afrique?
Oui, Omar. Oui, tout à fait. Moi, je pense d'ailleurs le tourisme. Bon, il y a différents types de tourisme, comme on le sait. Il y a le touriste d'affaires, le tourisme médical, le tourisme de loisirs et finalement, il y a le tourisme culturel qui est le sujet de notre échange aujourd'hui. Le tourisme en Afrique, en fait, pour moi, ça représente vraiment une importante activité économique, mais le potentiel est énorme, mais c'est vrai qu'il est encore mal exploité. On le voit par les touristes internationaux qui viennent sur notre continent. Moi, je vois beaucoup quand je voyage sur l'Afrique, sur tous les pays d'Afrique. Mmh. Il faut savoir que sur 10 touristes internationaux, il y en a au moins 5 qui sont d'origine africaine. Mais quand on voit les touristes vraiment étrangers, la plupart d'entre eux, la première chose qu'ils font, mmh. ils cherchent justement à découvrir le potentiel culturel du pays. Donc il y a un énorme travail à faire là-dessus. L'Afrique a généré près de 45 milliards de dollars de recettes touristiques l'année dernière, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc pour rendre la destination Afrique, je pense, un peu plus attractif, mmh. je pense qu'il faut travailler, oui, avec des systèmes comme celui de Guidely, et il faut travailler en collaboration peut-être avec les ministères du tourisme des différents pays et régions. Mmh. On doit également, je pense, travailler sur la conservation du patrimoine culturel africain, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monuments historiques qui sont malheureusement aujourd'hui un peu à l'abandon.
Mmh. Alors, Kenza Yahyaoui, vous, votre application repère donc ces lieux. Alors, est-ce que vous sentez que, par exemple, à l'instar d'autres destinations planétaires, est-ce que dans le continent, les responsables de ces sites, de ces lieux attractifs, alors, ont le réflexe de les rendre visibles sur donc, la toile, notamment à travers ces applications de localisation et de guide?
Alors justement, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire découvrir l'application à un maximum de monde. Mmh. Donc pour ça, je suis en train d'essayer de créer des partenariats, principalement pour l'instant en France, mais je vais essayer de me diversifier, notamment au Maroc, puisque j'ai quelques contacts là-bas. Mais l'objectif, ça va être de vraiment faire connaître l'application via les offices de tourisme, mais aussi des hôtels, des tours opérateurs, sachant que l'application va coûter qu'à l'utilisateur final, puisque c'est cette personne-là qui va utiliser le service. Mmh. Mais les autres personnes, donc les structures, elles en soi n'ont rien à payer, puisque la seule chose à faire, c'est de promouvoir l'application et ça leur ajoute de la valeur aussi de leur côté.
Mmh. Alors, qu'en est-il de la collaboration pour un plus grand développement, disons plus rapide, et de plus de notoriété pour Guidely, notamment en Afrique, en termes d'investissement? Est-ce qu'il y a un besoin de développement, de participation de capital, de mieux rendre l'application plus, disons, robuste et plus visible?
Donc oui, totalement. Mm-hmm. Pour être transparente, aujourd'hui, je suis toute seule sur le projet, donc c'est un peu compliqué de trouver des investissements, de trouver comment déployer l'application, à part moi aller voir une par une ces personnes. Mmh. Effectivement, je suis un peu à la recherche d'accélération sur cette partie-là de développement et déploiement de l'application.
Mmh. En tout cas, c'est à suivre. Une dernière question pour Mustapha El Bouri. Vous voyez les investisseurs qui se manifestent donc à travers le continent. Vous voyez aussi cette diaspora africaine qui investit. De même que vous repérez ces porteurs de projets, dans le cas de Guidely, qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui émerger comme, disons, link potentiel pour développer du business avec des partenaires africains?
Comme l'a dit Kenza, je pense que Guidely, d'ailleurs c'est le rôle aussi de d'émissions comme la vôtre, on vous en remercie. C'est aussi les partenariats qu'on va faire aussi avec Best Afrique. Il faut faire connaître ces applications qui doivent être connues. Mm-hmm. Et nous, via Best Afrique, ce qu'on va faire, c'est vraiment utiliser tout le réseau aussi d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires, comme vous avez dit, de diaspora, pour faire connaître une application comme celle de Kenza. Et je pense qu'il y a une niche aussi à travailler, c'est la niche du tourisme d'affaires sur le continent africain qui est en croissance constante. Mmh. Et je pense que il faut capitaliser sur cette tendance pour faire en sorte que ces voyageurs découvrent notre continent durant leur visite via, et je pense que c'est beaucoup plus simple via des applications, bien entendu, comme Guidely, plutôt que passer par des guides. Souvent, des fois, c'est compliqué de les trouver. Donc oui, il y a un travail à faire. Donc on va travailler peut-être là-dessus avec Kenza, voir comment mettre en lumière son application via des symposiums ou via un réseautage.
En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous deux, Kenza Yahyaoui, qui est donc responsable de l'application Guidely, qui sert donc à repérer les lieux culturels à travers le monde, mais aussi et surtout en Afrique, où un potentiel énorme donc se dégage pour les 74 millions de touristes qui visitent le continent. Merci également à Mustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique. Merci à vous deux et très bonne chance pour l'application Guidely en Afrique.
Merci Oumar, à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.